les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens. Car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au commencement, aujourd'hui, toujours et au siècle des siècles. Gloire Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui était et qui vient. Alléluia.
Nous pouvons nous asseoir. Assurés de l'amour en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Confessons qu'infidèles à la vocation que Dieu nous adresse, nous n'avons pas été de bons économes de ses multiples grâces. Invoquons-le, glorifions son nom car il entend nos cris. Et il nous sauve des griffes de la mort. Ne nous laisse pas vivre dans la présomption, Seigneur, ni suivre de mauvaises routes, mais que ton esprit ait de l'emprise sur nous. Conduis-nous sur les chemins de justice et de paix. Par Jésus-Christ, le Messie, ta parole est notre guide, qui vit avec toi au siècle des siècles. Et nous chantons le spontané 61-18.
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.
Recevez les promesses du pardon, adressées à tous ceux qui se repentent et qui croient. Je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu. C'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Ne crains rien. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Nous nous levons pour chanter le spontané. 47-18.
Tu consoles, tu pardonnes, ta bonté sur tous rayonne, ta pensée au Dieu d'amour est fidèle.
Écoutons, frères et sœurs, comment le Seigneur veut être servi. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les idoles, vous ne jurerez pas faussement par mon nom. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Vous ne déroberez pas et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Vous aurez des poids justes et des balances justes. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne raviras rien par la violence. Tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain le salaire du journalier, tu traiteras l'étranger comme l'un des tiens. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements, ni ne les changeras selon que ton prochain est riche ou pauvre. Ne va pas colportant le mal autour de toi. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas rancune, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Amen. Et nous chantons le spontané. Dieu nous parle. Dieu nous montre le chemin, peuple du Seigneur. La strophe 3, excusez-moi.
Transmet la nouvelle aux générations, afin qu'elle enseigne à ceux qui naîtront ce que nous avons que nous.
Nous pouvons nous asseoir. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance, que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie, que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous le te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons lire trois lectures, et d'abord les deux premières qui sont tirées de Jérémie, de la première épître aux Thessaloniciens. Nicolas ? Ah, voilà, je le cherchais.
D'abord Jérémie. C'est Jérémie. Pardon, c'est Jérémie, quel passage ?
33, versets ah oui. 14 à 16.
Des jours viennent, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la promesse que j'ai faite à la communauté d'Israël et à la communauté de Juda. En ce temps-là, à ce moment même, je ferai croître pour David un rejeton légitime qui défendra le droit et la justice dans le pays. En ce temps-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom dont on la nommera. Le Seigneur, c'est lui notre justice. Et maintenant le passage de l'épître aux Thessaloniciens. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'image de notre amour pour vous. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs dans une sainteté irréprochable devant Dieu notre Père lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Au demeurant, frères, Voici nos demandes et nos exhortations dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez. Faites encore de nouveaux progrès. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.
Et nous lisons enfin la lecture biblique sur laquelle portera plus directement la prédication, au chapitre 21e de Luc, les versets 25-27, puis 34-36. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvanté par le fracas de la mer et son agitation. Tandis que les hommes défailleront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, ils verront le Fils de l'homme venir entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la surface de la terre entière. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants, pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Nous chantons le spontané 22-07. Il est de tradition dans nos églises de se préparer à l'avant en méditant les petites apocalypses prononcées par Jésus dans les évangiles synoptiques. Il y a 2 semaines, c'était, vous vous en souvenez, le 13e chapitre de Marc. C'est maintenant Luc qui nous annonce la venue du Fils de l'homme à la fin des temps. Je trouve intéressant que l'Église choisisse cette période de l'Avent, où nous nous apprêtons à faire mémoire d'une naissance vieille de 2000 ans, pour la mettre en perspective avec un événement futur qui n'est autre que l'heure du jugement dernier et de la dévastation. Cette mise en regard du passé et du futur, c'est de cela dont je voudrais vous parler. Le titre de cette prédication prend la forme d'une double question. Qu'avons-nous fait de notre avenir? Que ferons-nous de notre passé? Vous aurez remarqué que ces deux questions jouent sur une alternance de temporalité. La première question porte sur l'avenir, mais elle est conjuguée au passé composé. Qu'avons-nous fait de notre avenir? Nous verrons, et ce sera la première partie de ma prédication, que nous appartenons à la première génération peut-être qui a compris que par ses actions passées, elle venait de détruire la plus belle part de son avenir. La seconde question, en sens inverse, elle porte sur le passé, mais elle est conjuguée au futur. Que ferons-nous de notre passé ? Que ferons-nous de cette naissance si lointaine, si usée déjà, pour nous qui la célébrons chaque année ? Qu'est-ce qu'un enfant qui est né il y a 2000 ans, a grandi et mort avant son heure ? Qu'est-ce qu'un enfant peut encore nous apprendre ? Je poserai cette question durant la seconde partie de ma prédication, mais celle-ci sera plus brève que la première, dans la mesure au fond où cette question nous accompagnera d'ailleurs durant tout l'Avent. Quelle est l'actualité de cet événement passé pour notre existence ici et maintenant ? Qu'avons-nous fait de notre passé ? Qu'avons-nous fait de notre avenir, pardon. Qu'avons-nous fait de notre avenir ? Voici le genre de questions que l'on ne se pose que bien tard. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation. Devant le tableau sinistre de ce cosmos qui s'écroule sur lui-même, je ne puis m'empêcher de songer à la crise du climat. Je ne veux pas suggérer, comme certains frères et sœurs évangéliques, que la chaîne de cataclysmes dont nous commençons à voir les premiers maillons, feux de forêt d'une proportion inédite, inondations et montées des eaux, tempêtes, sécheresses, épidémies, seraient réellement l'annonce de la venue imminente du Fils de l'homme. Mais je dois aussi balayer devant ma porte et reconnaître qu'en tant qu'intellectuel luthéro-réformé, j'ai peut-être eu trop tendance à réduire ce texte à un symbole. J'ai eu récemment à méditer ce que ces déclarations terribles de Jésus pouvaient avoir de concret. Ma femme est d'un tempérament naturellement joyeux, elle n'aime rien plus que rire, et pourtant, depuis quelques années, la conscience progressive de la crise climatique génère chez elle une profonde anxiété. Elle a lu les différents rapports du GIEC, cette communauté de scientifiques qui dresse régulièrement le bilan écologique de notre planète, et elle en a conçu une grande tristesse. Elle a depuis lors des accès de mélancolie qui ne sont jamais aussi marqués que le soir au moment de coucher nos deux enfants. Elle me disait, l'autre jour, en les regardant s'endormir, qu'il eût mieux valu pour eux qu'ils ne fussent pas nés, plutôt que de connaître, après l'abondance des premières années de leur vie, la lente montée des températures, et avec elle, les catastrophes naturelles, les pénuries, les guerres de ressources. Je ne partageais pas son pessimisme, mais comme elle avait fait l'effort de se documenter scientifiquement, je me devais de le faire aussi, pour pouvoir discuter sur un pied d'égalité avec elle. Un soir, je m'installai donc dans un fauteuil du salon pour lire la synthèse du dernier rapport du GIEC, 40 pages pour résumer les 1300 pages du rapport complet. Ces pages sont écrites dans un style technique et froid, peu propice aux exagérations. Pourtant, à mesure que je poursuivais ma lecture tard dans la nuit, je ne pouvais chasser une sensation de malaise. Toute la sobriété du langage scientifique ne pouvait plus masquer l'accumulation de milliers de petites défaites climatiques qui nous acheminaient vers la débâcle. J'avais déjà entendu cela des dizaines de fois, bien sûr, mais je n'avais pas voulu écouter. Ce soir-là, j'ai accepté de baisser la garde, j'ai compris le drame qui était en train de se jouer et j'ai compris quel y avait été mon rôle. J'ai compris que durant 35 années, j'avais participé plus qu'à mon tour à la destruction de notre habitat commun, en ne faisant rien ou en faisant juste assez pour apaiser ma conscience. Cette nuit-là, je suis retourné embrasser mes enfants dans leur chambre. Comme un pan de lumière en entrant avait frappé le visage de mon fils, Celui-ci s'était réveillé dans un petit gémissement. Il me demanda mollement, avec les mots d'un enfant de 4 ans, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis agenouillé près de son lit et je l'ai embrassé longuement, sans rien dire. Et quand j'ai finalement desserré mon étreinte, j'ai vu ses yeux, grands ouverts maintenant, qui me fixaient avec une curiosité mêlée d'une pointe d'inquiétude. « T'as fait quoi ?» me demanda-t-il. L'à-propos, même involontaire, de cette seconde question me saisit. Oui, qu'avais-je fait ? Qu'avais-je fait durant toutes ces années pour le préserver de la menace à laquelle je l'avais exposé en le mettant au monde, en lui donnant la vie ? Je ne trouvais rien à dire. Qu'aurais-je pu lui répondre ? Qu'est-ce qu'un père peut répondre à son fils lorsque celui-ci le met face à ses propres fautes ? Il est inévitable qu'un jour, l'enfant soit déçu par son père. Mais j'avais toujours espéré que ce moment viendrait beaucoup plus tard, que j'aurais pu trouver les mots, tout, plutôt que d'affronter le regard de l'innocent qui demande pourquoi. Cette nuit-là, je n'ai pas eu le courage de dire la vérité à cet enfant qui me regardait avec dans ses yeux l'amour le plus absolu, la confiance la plus animale. Lorsque je refermai la porte de la chambre, je compris enfin pourquoi ma femme n'était jamais aussi grave qu'au moment de coucher nos enfants. C'est que nous appartenons tous les deux à la première génération qui sait qu'elle a compromis une part de l'avenir de nos enfants. La seconde partie de ma prédication pose la question : que ferons-nous de notre passé ? Nous allons au-devant d'une période de tribulation qui seront pour nos enfants bien réelles et dont les prémices sont pour nous déjà présentes, ne serait-ce que par le poids de notre responsabilité. Nous n'échapperons pas à la culpabilité, pas plus que nos enfants n'échapperont aux épreuves qui seront les leurs. Le texte biblique nous dit bien que les événements à venir s'abattront sur tous les habitants de la terre. Il ne nous est pas offert un échappatoire au jugement, mais il nous est suggéré une attitude préalable à ce jugement. S'il est inévitable que ces événements se produisent, Dieu nous donne de les affronter debout. Le corps dressé et la tête haute, c'est bien le terme employé, je cite les derniers mots de notre texte, se tenir debout devant le Fils de l'homme. Il nous est demandé de garder notre attention fixée sur le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire, en cette période de l'Avent, sur ce petit enfant qui va naître. Il nous est demandé, en un mot, de placer notre confiance en Dieu, mais en un Dieu qui ne regarde pas l'histoire de loin, mais qui partage notre faiblesse. En plaçant une méditation sur l'avenir au seuil de l'avant, l'Église accomplit un geste dont elle est coutumière. Nous, les chrétiens, sommes coutumiers du fait de chercher dans le passé la foi et l'espérance dont nous avons besoin pour vivre au présent. Nous, les chrétiens, nous avons entendu une promesse vieille de 2000 ans qui disait « Tu es mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur » et nous y avons cru. Nous, les chrétiens, nous avons placé notre confiance en cet enfant à naître depuis que Marie répondit à l'ange « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Mais pas seulement cela. Nous, les femmes, nous avons fait confiance en Jésus lorsque celui-ci dit à une autre femme qui n'était pas plus coupable que les autres, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Nous, les étrangers, nous nous souvenons qu'il est écrit, « Tu as été un étranger sur la terre d'Égypte. » Nous, les affamés, les assoiffés de la justice, nous avons placé notre confiance en Jésus lorsqu'il nous a dit, « Ceux qui pleurent seront consolés. » Nous, la racaille, nous, les moins que rien, nous, la lie de la terre, Nous n'avons pas oublié ce qu'il fut répondu à la question « Seigneur, quand avons-nous fait cela ?» Nous, les réfugiés, nous nous souvenons que Genève a ouvert ses frontières aux Huguenots, menacés d'abjurer leur foi. Nous, les Juifs, qui n'avions plus d'autre choix que de faire confiance à des inconnus qui nous guidaient vers la Suisse dans une nuit sans lune, nous, les chrétiens, comme la femme de Lot, nous ne pouvons nous empêcher de regarder en arrière, éblouis par les lueurs de notre histoire en flammes. C'est désormais à notre tour. Nous aurons à nous souvenir de ce passé et à placer notre confiance en Dieu, dans cet enfant, né il y a 2000 ans. Si nous voulons non pas esquiver les épreuves, qui attendent notre destinée collective, mais les affronter, et les affronter d'une manière telle que nous puissions nous tenir debout devant le Fils de l'homme, puissions-nous garder assez de confiance en Dieu pour pouvoir dire de notre vie ce que Job disait de la sienne. Dieu me l'a donné, Dieu me l'a reprise. Que sa volonté soit faite. Amen. Nous nous levons pour chanter le psaume 40, le cantique 45-21 à la page 706 de vos recueils « Trouvez dans ma vie ta présence ».
Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Confiance aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Choisir de donner sans répondre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence. tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Nous
restons debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu qui a créé le monde afin que nous en célébrions la bonté et la beauté. Il est source de notre vie. Je crois en Dieu qui a remis les pleins pouvoirs à son Fils unique, Jésus le serviteur, qui a donné sa vie pour la liberté de tous les êtres humains. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Nous chantons le spontané 5302.
Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Oui, toujours sur la terre, je veux dire au Seigneur,
voici le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens.
Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, de notre travail. l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. C'est maintenant le moment des échanges d'informations dans la paroisse.
Je me permets d'enlever le masque, sans ça vous n'allez pas m'entendre. Le synode régional a donc eu lieu. C'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont participé, et en premier lieu la cheville ouvrière de l'organisation, Monique Piachot. Je crois que tout le monde était content. L'office qui a eu lieu dans l'église s'est très bien passé, même si, paraît-il, c'était un peu frais. Mais... autrement, donc, je vous rappelle simplement ce qu'il y a dans les nouvelles, les réunions de la chorale, qui ont toujours lieu à la même heure, à la même date, le concert de Noël des Alpes, qui aura lieu le samedi 4 décembre à 18h, si l'information est toujours bonne, le groupe Parole et Prière, tous les mercredis, 18 à 19h. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une information qui ne nous concerne pas directement, c'est le conseil du consistoire, à part les personnes du conseil presbytéral qui y sont, qui a lieu le samedi 2 décembre à Cluse. Pardon?
C'est samedi, mais c'est 22.
Ah, oui, donc là. Ah, ben c'était. Oui. Non. Oui. Le concert? C'est bien le 4, oui. Oui, non, mais le conseil du consistoire, en fait, je me suis trompé, c'était le samedi 2 octobre. Donc, enfin, la date qui est mentionnée. Donc, du coup, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Des travaux, une mention pour les travaux du presbytère. Donc, ça avance doucement. Donc, on a Franck Armingo qui gère les travaux. Beaucoup de personnes ici ont participé un petit peu. Je crois qu'il faudra donner un grand coup de main au début de l'année prochaine. Il y a certains travaux qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année par des entreprises. Et après, bon, il y a des travaux de peinture, de réfection des murs. Il y a pas mal de choses à faire et on aura besoin de toutes les volontés. On va essayer d'organiser avec le conseil presbytéral une mission spéciale où un week-end où on sera sur le pont. Mais je crois que donc ça sera courant janvier. Toutes les volontés sont bonnes, surtout ceux qui savent faire quelque chose. Ce n'est pas vraiment mon cas, mais je me mettrai au service de ce qu'il faut faire. Je vais vous parler aussi un peu de la situation financière. Comme tous les ans, elle n'est pas difficile, mais elle n'est pas très bonne non plus. Donc on a un double mur qui se profile d'ici la fin de l'année. C'est la capacité à tenir nos engagements de contribution pour la région et le financement aux travaux qui restent à faire. Donc la situation n'est pas grave, elle n'est pas désespérée, mais on se permettra de faire de nouveau un appel aux généreux donateurs que vous êtes pour pouvoir assurer les financements dont nous avons besoin. J'ai aussi à vous informer, donc vous avez vu qu'il y a la vente de couronnes de l'Avent au profit des scouts et de la cause dans le hall d'entrée. Et il y a aussi un petit sac qui est pour l'ordre de Malte qui recherche des bonnets, des gants, des chaussettes, mais pas de vêtements. Donc c'est notre ami Gérard Guichard qui m'a donné l'information. Donc si vous avez des bonnets, des gants et des chaussettes, je pense que c'est la neige qui tombe va nous motiver à chercher ces éléments. Voilà. Pardon.
Je rappelle que on espère pouvoir avoir le repas de Noël sponsorisé par Serra, qui est prévu donc après le culte dans 2 semaines, c'est-à-dire le 12 décembre. Et bon, il y a déjà le menu affiché, il y a un tableau pour vous inscrire. Je serai aussi dans un verre d'eau. Après le commande, vous pouvez passer chez moi, mais ça ne coûte pas rien. Pour le moment. Et ben, il faut quand même dire que, bon, même si tout va bien, et on espère donner, sinon on ne peut pas le faire. D'accord ? Donc voilà, je pense que vous comprenez. Merci.
Et la réunion du SERA du
vendredi. Ah oui, mais on n'annonce pas d'habitude. Ah bon, ok. On a notre réunion comme notre conseil administratif, donc ce vendredi matin. Voilà.
Voilà. Oui. Oui.
Donc on passera par la cause pour mettre l'argent. Voilà. Et la deuxième partie, c'est pour une petite fille qui est parrainée par l'école du dimanche.
Donc je répète pour que ceux qui ne sont pas là puissent entendre. Donc la vente des couronnes de l'Avent, c'est 50% pour la famine à Madagascar via la cause et 50% pour une jeune enfant. Donc dimanche prochain, le marché de Noël des scouts. Voilà. Christophe. Alors, donc le concert du 4 décembre, c'est au profit de l'Ordre de Malte. Et effectivement, les remerciements habituels à ceux qui font l'accueil, à Marie-Vonne à l'orgue et à Kevin, bien entendu, pour sa prédication, pour son culte.
Par contre, moi, je voudrais rajouter par rapport à ce que vous avez dit, je m'occupe de l'école biblique. Il paraît certain que l'école biblique, à partir de cette année, on a décidé de parrainer une petite fille par le biais du SEL, qui est une association chrétienne. C'est une petite fille qui habite en Bolivie. Et on a choisi de la parrainer donc, avec l'école biblique, comme ça leur permettra, d'abord on va communiquer avec cet enfant, et ça leur permettra de la suivre tout au long des différentes années. Donc on voulait mettre un but concret à notre collecte que l'on fait avec les enfants. Et du coup on aura un suivi, vous pourrez voir là-haut, on a commencé avec la carte, la photo de la petite fille. On aura un suivi donc régulier de ce qu'advient cette collecte. Donc on leur a demandé de sortir de leur tirelire, non pas demander à papa et maman. Voilà, que ce soit un don de leur part.
Je peux rajouter quelque chose?
Oui, c'est le. C'est bon ?
Oui.
Ça passe, Céline. Merci.
Unissons-nous dans l'intercession. Seigneur, apprends-nous à traduire ton évangile pour tous ceux et toutes celles que nous rencontrons. Pour tous ceux et celles vers qui tu nous envoies. Apprends-nous à le traduire fidèlement par notre langage, par nos gestes et par nos actions. Apprends-nous à leur exprimer de manière compréhensible que tu es bien le roi des Juifs, que tu es notre roi, parce que tu nous as ouvert les portes de ton royaume, de ton peuple. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, roi du monde, pour le temps et l'éternité, garde-nous dans ta communion et dans la mission de ton Église. Nous te supplions, Seigneur, que pour toutes les églises de la terre, tu restes toujours le roi des Juifs et les gardes ainsi dans l'unité. Fortifie et encourage celles et ceux que tu as chargés de mission auprès de tous les êtres humains qui attendent encore de faire ta connaissance. Seigneur, que la mission de ton Église fasse sortir les prisonniers, cesser les tortures et les violences, qu'elle amène la disparition des régimes policiers et des idoles, qu'elle répande la liberté, la sainteté et la joie sur toute la terre, pour le bonheur de toutes tes créatures
et pour qu'approche enfin la réunion finale. Seigneur, viens bientôt récapituler toutes choses dans ton amour. Amen. Pour ce culte, nous chanterons le Notre Père. Nous le chanterons en nous levant, c'est le 62-21, page 972 de notre recueil.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, tu nous mets debout devant le Fils de l'homme. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus de Nazareth, merveille d'humanité et d'amour. Parole qui libère et crée un espace nouveau. Là où il vient, la vie n'est plus ni obscure ni angoissante. Nous t'en prions, qu'en chacun de nous sa vie grandisse, que nous ne soyons plus enlisés dans le désarroi, ni possédés par le doute et la discorde, mais que nous soyons remplis de foi et de courage, de simplicité et de paix. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour accueillir ton Fils. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute paix et de toute joie, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez et annoncez l'Évangile jusqu'aux confins du monde. Amen. Amen. Nous chantons le dernier spontané, 62-81.
Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider. Sois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour.
Merci à vous toutes et tous. Bon dimanche.
Bonjour Kevin, je suis Frédéric du Conseil presbytéral.
Enchanté.
Donc enchanté de faire ta connaissance.